Aristote, la vertu et le bonheur. Nous sommes donc dans la deuxième rencontre autour de la question des grandes morales, où nous allons nous efforcer de comprendre quelques grandes morales qui ont parsemé l'histoire de la philosophie, fondé même l'histoire de la philosophie, et les comprendre aussi, bien que ça reste pour nous un objectif second, dans ce qu'elles ont encore de pertinent. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'histoire au sens archéologique du mot pour parcourir des doctrines un peu désuètes dont on pourrait regretter le charme. C'est aussi pour comprendre comment ces pensées, y compris celles d'Aristote, d'Épicure, d'Augustin, etc., ont quelque chose de pertinent pour notre temps et en quoi d'ailleurs elles continuent de nous façonner. Pour ceux qui n'auraient pas été présents lors de notre première rencontre, je rappelle quelques petits points que j'ai tenté de mettre en évidence. Le premier, c'est que la morale concerne l'agir. Non pas le jugement, c'est-à-dire non pas la manière dont on évalue un acte, mais la manière dont on le fait. Donc elle se manifeste, elle se déploie essentiellement dans l'ordre de l'agir. J'ai eu aussi l'occasion de faire une distinction, qui d'ailleurs a son origine chez Aristote, en disant que si elle est de l'ordre de l'agir, elle n'est pas de l'ordre du produire. C'est-à-dire que ce qui distingue l'agir et le produire, c'est que le produire est orienté vers un objet, on fait un objet, on fait une table, alors que l'agir est tout entier dans le déploiement du sujet. On n'agit pas quelque chose. Et donc on pense l'agir quand on pense la manière dont le sujet se fait, se réalise, s'accomplit à travers son acte, même si cet acte consiste à faire une table. Et c'est ce qui distingue une technique et une éthique. Et là encore, les termes sont aristotéliciens, puisque la technique, c'est la règle qui justement concerne le produire, comment fait-on une table, alors que l'éthique, c'est la règle qui concerne l'agir. Qu'est-ce que la bonne action ? On pourrait, dans des termes plus contemporains, reprendre cette distinction entre l'agir et le produire en l'évoquant à travers la distinction du but et du sens. Le produire nous permettrait d'atteindre un but au bout d'un plan. C'est comme ça que l'on parle des buts d'une entreprise ou du je ne sais quoi, alors que le sens, lui, met en évidence la manière dont le sujet s'accomplit à travers son acte. On peut tricher pour atteindre un but, on ne peut pas tricher pour accomplir un sens. On peut tricher pour arriver à un sommet, on peut tricher pour avoir une médaille, on peut tricher pour avoir un examen, on ne peut pas tricher pour devenir plus courageux, plus héroïque que sais-je. Et c'est bien ce qui nous met au cœur de la question morale, c'est l'agir en tant qu'il concerne le déploiement même du sujet. Et j'ai eu l'occasion de dire dans notre première rencontre que cela plaçait l'éthique devant des questions qui sont d'une part anthropologiques, d'autre part métaphysiques. Anthropologiques, parce que si je dis l'agir, c'est ce qui concerne le déploiement du sujet, la réalisation du sujet dans son acte, la question et comment se fait-il que je ne fasse pas ce que je veux ? Comment se fait-il que je résiste ? Comment se fait-il qu'il y ait en moi des contradictions ? Et que donc cet agir ne se déploie pas tout continuellement comme l'épanouissement d'une fleur. Aristote compare l'agir à l'épanouissement d'une fleur. On voit bien pourquoi, parce que la fleur, elle ne fait rien, sinon se réaliser elle-même. Mais la fleur, elle se déploie elle-même d'un seul mouvement. Manifestement, il n'en va pas de même pour nous, car nous rencontrons obstacles, contradictions, nous devons parfois fouetter la bête et faire des choses qui ne correspondent pas à ce que nous aurions voulu faire. Et donc, les différentes grandes morales que nous allons parcourir, de manière désinvolte, bien sûr, vont toutes mettre en jeu une anthropologie, c'est-à-dire de quoi l'homme est-il fait ? Quels sont les composés de l'homme qui expliqueraient que il fait pas ce qu'il veut ? Alors, bon, c'est ce qui renvoie à la distinction classique de l'âme et du corps, ou ce que vous voulez. La deuxième question est métaphysique et cosmologique aussi, d'ailleurs, puisqu'elle consiste à s'étonner de ce qu'il semble que le monde soit indifférent à nos exigences morales. Il s'en fout, le monde. Et donc, la peste, la famine, la guerre, le tremblement de terre, le tsunami, n'attendent pas de savoir s'il y a des bons ou des méchants. Et s'abattent sur les bons comme sur les méchants. D'où la question... La première question, c'était comment se fait-il que je ne fasse pas ce que je veux ? Puis la deuxième question, c'est comment se fait-il que le monde ne corresponde pas à mon agir moral, qu'une vision morale du monde soit impossible ? Et à quoi bon avoir une vision morale du monde si, au bout du compte, tout ceci se termine par l'effacement de toute chose dans la mort, le cataclysme, les phénomènes physiques aveugles ? Ce monde a-t-il un sens ? L'agir me dit... Oui, ce que tu fais, tu peux l'orienter vers son sens. Mais si je fais effort pour agir de manière sensée dans un monde qui est indifférent, glacial et insensé, à quoi bon ? Et s'il est condamné par l'horizon de la mort, je n'aurais fait jamais que lancer une fusée lumineuse qui retombera dans la nuit. Voilà. Donc je vais m'efforcer, dans les chapitres et les rencontres qui vont suivre, de présenter quelques grandes philosophies, d'immenses philosophies, des grands maîtres qu'il faudrait prendre le temps d'aimer, et m'efforcer de les lire en éclairant la portée anthropologique, la portée métaphysique et cosmologique de leur philosophie. Aristote, dont l'œuvre est évidemment immense, puisque Aristote a étudié la logique, les mathématiques, la physique, la métaphysique, la rhétorique, l'éthique, la politique. Enfin, on peut dire que la pensée d'Aristote touche tous les domaines. Avec un côté un peu énigmatique, c'est que aucune œuvre d'Aristote ne nous est parvenue. Ce qui est un sort assez curieux. On est sûr d'avoir toutes les œuvres de Platon. On le sait. On a toutes les œuvres de Platon. On sait qu'on a toutes les œuvres de Platon dans l'état où Platon nous les a fait parvenir. Ou à peu près, vraiment. Aristote, on sait qu'il a écrit des choses, mais c'est tout perdu. Et quand on parle de la pensée d'Aristote, on n'en parle qu'à travers les cahiers, recueils qui ont été faits par des disciples, des traditions... etc. Ce qui donne d'ailleurs souvent à l'interprétation de cette œuvre une certaine confusion qui fait évidemment la joie des thésards. Et l'œuvre de référence qui est le manuel pour tous les philosophes s'intitule « L'éthique à Nicomaque ». Qui était Nicomaque, là aussi, ça fait travailler les érudits. Cette éthique à Nicomaque n'est pas de la plume d'Aristote. C'est manifestement un recueil de textes qui ont été collectés d'une manière qu'on ne peut à peu près d'ailleurs reconnaître, mais enfin qui n'est pas dans un modèle de cohérence tel que nous y sommes habitués depuis que la philosophie est devenue systématique, c'est-à-dire depuis le XVIIe siècle. Que Aristote ne s'est apparemment pas bien soucié de faire un système, et on a donc une collection de cahiers. Mais bon, à travers ces collections de cahiers, on va vivre justement une pensée. L'éthique à Nicomaque commence par une affirmation que je vous transmets mais que vous ne comprendrez pas, parce que vous êtes des modernes, moi aussi d'ailleurs. C'est-à-dire que l'éthique à Nicomaque consiste par dire « toute chose existe en vue d'une fin ». Vous croyez comprendre, vous n'y comprenez rien. Parce que nous autres, modernes, quand nous comprenons l'idée de fin, nous comprenons un but, quelque chose à atteindre. Pour un ancien, la fin ne se présente pas comme un but, mais, que faudrait-il dire ? Comme un attrait. Comme quelque chose qui fait advenir à soi ce qu'il attire. J'évoquais tout à l'heure le mouvement de la fleur. Nous, maintenant, nous aimons dire, à la suite de la trop célèbre citation que Heidegger a faite d'Angelus Silesius, « La rose est sans pourquoi, de la rose est sans but, etc. » Non, on peut penser qu'un ancien pense que la rose, elle a une destination, une fonction à accomplir, et que la rose se réalise au moment même où elle coïncide avec ce qui était sa fin. Quel est le but du guitariste ? Non pas jouer de la guitare, mais être un bon guitariste. Et un guitariste heureux sera celui qui, à un moment, pourra coïncider avec cette fin qui est préinscrite. Devenir un bon guitariste. Il n'est pas question pour lui d'inventer la guitare, d'improviser la guitare, de gratouiller des cordes. Mais de réaliser cette fin qui l'attend, ce modèle, si vous voulez. Mais même si vous pensez modèle, vous pensez mal. Pensez attirance, pensez aimant, pensez je ne sais quoi. Quelque chose qui attire. Et qui fait venir à soi ce qui attire. Ce qui l'attire. Par exemple, Aristote dit, ça c'est éclairant. Aristote dit, Dieu agit sur le mode du désirable. Nous autres, quand nous pensons à un Dieu créateur, enfin créateur, un fabricant, justement un fabricant, nous pensons à un Dieu qui a donné une chiquenaude, qui a mis en route un mouvement, qui a mis en route un mécanisme. Non, Dieu agit sur le mode du désirable, comme l'adulte est désirable pour l'enfant, comme être bon guitariste est désirable pour un guitariste et qu'à ce moment-là, cette fin attire à soi toutes les virtualités qui resteraient en sommeil si elles n'avaient pas rencontré ce qui les appelle à leur avènement. Tout, en ce sens, se meut vers une fin. Les conséquences de cette pensée que nous ne comprenons pas, que nous avons un peu de la peine à comprendre, parce que nous sommes des modernes, vous aurez compris Aristote, parenthèse, quand vous aurez compris cette phrase d'Aristote, « Le beau se voit mieux que le laid ». Si vous avez compris cette phrase, vous avez compris Aristote, vous n'avez même plus besoin de rester ce soir. Mais je doute que vous la compreniez vraiment. C'est-à-dire, le beau met la faculté de voir dans sa plénitude. La faculté de voir, elle est difficile, elle est borgne, elle est... astigmate, j'en sais rien. Et donc, elle naît dans sa plénitude que quand elle rencontre le bon objet qui est précisément sa fin, vous voyez. Alors, cela veut dire que le mouvement chez Aristote est toujours le mouvement en vue d'une fin. Que le mouvement soit le mouvement en vue d'une fin, ça signifie que le mouvement, je vous demande de bien retenir ça si vous revenez pour les prochaines conférences, ça signifie que le mouvement est en vue de l'immobilité. Et que finalement, l'aboutissement du mouvement, c'est l'immobilité, comme la bille qui a trouvé son trou. Et que le mouvement est donc un état imparfait des réalités. Oui. Voilà pourquoi dans la cosmologie aristotélicienne, l'image même de la perfection, c'est les astres dans leur retour, dans leur immobilité la plus grande possible, dans leur fixité cristalline. Bon, il y a bien quelques planètes qui, comme leur mot l'indique, font problème, mais les astres, eux, nous donnent donc cette image d'un mouvement le plus près possible de l'immobilité, c'est-à-dire le plus régulier. Ailleurs, sur la Terre, c'est le bazar, au sens biblique du mot, et donc il y a de la poussière, il y a du désordre, il y a de la neige en été et des jours de chaleur en hiver. Nous commençons donc en quelque sorte, nous ne sommes pas encore à la morale, vous voyez, on en est à la cosmologie. C'est-à-dire, quelle est la vision du monde d'Aristote ? Quelle est la vision de la cosmologie d'Aristote ? C'est le monde est ordonné, et il est ordonné en vue de la stabilité, de l'immobilité. Toute chose a sa fin, qu'il s'agisse des mobiles physiques, qu'il s'agisse des vivants, qu'il s'agisse des hommes, qu'il s'agisse des astres. Physique 4, 202, 208, B. Quand je dis 208b, 1701, ça veut dire que Aristote, comme tous les grands auteurs, est recensé dans une pagination universelle qui vous permettra de les retrouver. Si je vous dis 208b, quelle que soit l'édition d'Aristote, vous retrouverez la page 208b. Physique 4, 208b, Aristote dit « Les transports des corps naturels simples, comme feu, terre et autres semblables, indiquent non seulement que le lieu est quelque chose, mais qu'il a une certaine puissance. Le lieu attire. En effet, comme peut-être le trou, vous voyez, attire la bille. » Elle dit, viens. En effet, viens et quoi ? En effet, chacun est transporté vers son propre lieu. Donc chacun a un lieu. Donc quand on dit qu'on se construit, qu'on se fait, ça ne veut pas dire qu'on se construit, qu'on se fait en un lieu quelconque. Se construire et se faire, c'est rejoindre son lieu. Être à sa place. Et celui qui est à sa place est accompli parce que précisément, il est à la juste place, the right man and the right place. Pas une place quelconque qui s'est faite. En effet, chacun est transporté vers son propre lieu, si rien ne fait obstacle. L'un en haut, l'autre en bas, mais ce sont là parties et espèces du lieu, je veux dire le haut, le bas, les autres parmi les six dimensions. Or, ces déterminations, et là encore vous n'allez rien y comprendre, vous autres modernes, or ces déterminations, le haut, le bas, la droite, la gauche, ne sont pas telles seulement par rapport à nous. Pour nous, en effet, elles ne sont pas toujours constantes, mais dépendent de la position que prend la chose pour nous, selon notre orientation. Par suite, une chose peut, en restant sans modification, être à droite ou à gauche, en haut ou en bas, en avant ou en arrière. Bah, dans la nature, au contraire. Chaque détermination est définie absolument. Le haut n'est pas n'importe quoi. Mais le lieu où le feu et le léger sont transportés. De même, le bas n'est pas n'importe quoi. Mais le lieu où les choses pesantes et terreuses sont transportées. De telles déterminations différant non seulement par leur position, mais par les puissances. La question de la morale devient donc, quel est le but de l'homme ? Mais voilà pourquoi j'ai insisté en disant quel est le but de l'homme, c'est non pas quel est le but qu'on se donne, vous voyez ? Quel but faut-il se donner ? Mais vers quoi avons-nous à aller ? Qu'est-ce qui nous attire ? Ne pensez pas non plus, vous autres petits modernes, que ce soit un idéal à accomplir. Non, c'est la réalité même de ce qui va faire advenir mon être. Je ne suis pas devenir de n'importe quoi à n'importe quoi. De telle sorte que la question morale devient, mais alors, quelle est la fin de l'homme ? Ici, la réponse est claire, on reviendra peut-être là-dessus, elle nous est donnée par l'opinion. Et l'opinion, partout et toujours, dit, et on ne se trompe, on peut pas se tromper complètement, Aristote dit on ne peut pas plus rater la vérité qu'on ne peut rater une porte, et donc les gens ne peuvent pas se tromper complètement quand ils disent ben, la fin de l'homme c'est le bonheur. Rappelez-vous, pour ceux qui étaient à la première rencontre, on se demandait est-ce que la fin de l'homme c'est la liberté ou est-ce que la fin de l'homme c'est le bonheur ? La réponse classique, la réponse antique, la liberté ou le bonheur. La réponse antique, la réponse classique, la réponse de tous les anciens, c'est la fin de l'homme, c'est le bonheur. C'est-à-dire d'être à la juste place, d'être ajusté. Non pas un homme juste, mais un homme ajusté. Non pas une cheville ronde qui pourrait se mettre dans un trou carré, mais une cheville ronde qui se met dans un trou rond. Alors que nous, bien souvent, nous avons l'impression d'être une cheville ronde pour un trou carré. Ce bonheur, c'est donc l'état de plénitude de celui qui réalise toutes ses potentialités, dont toutes les puissances passent à l'acte, dont toutes les potentialités sont réalisées. Le parfait guitariste est celui dont toutes les potentialités sont réalisées, c'est-à-dire qu'il n'y a plus pour lui d'écart entre ce qu'il est et ce qu'il a à être. Pour nous, ça c'est moi qui parle, c'est pas Aristote. Pour nous, nous sommes dans le temps, c'est de moi, donc vous pouvez ne pas écouter. Nous sommes dans le temps parce qu'il y a toujours un écart pour nous entre ce que je suis et ce que j'ai à être. Si j'imagine un être pour qui ce qu'il est et ce qu'il a à être coïncident, il est accompli, il est hors du temps. On peut même dire qu'il est éternel. En tout cas, il ne connaîtra plus cette distance de soi à soi par laquelle s'introduit le possible. Le fini est la marque de la perfection. Vous êtes des petits modernes parce que vous pensez que l'infini est la marque de la perfection. Excusez-moi, c'est un propos plaisant, j'espère que personne ne le prend mal. Il faut toujours se méfier comme ça. Donc voilà, nous autres modernes, moi lamentable moderne, je suis tenté de penser que l'infini serait une marque de perfection. Non, le fini est la marque de la perfection. Parce que le fini est justement ce qui est tout entier contenu dans sa définition, qui ne manque pas à sa définition. Un guitariste accompli est un guitariste fini. De même qu'un tableau. La comparaison avec le tableau nous parlera peut-être davantage. Bien que nous aimions justement l'inachevé, particulièrement depuis Cézanne qui trouvait que le fini était imbécile. Donc voilà, que le tableau soit fini. Ce qui est miraculeux, c'est le moment où le peintre dit que le tableau est fini. Et qu'il n'est pas possible d'y ajouter une touche ou d'en retrancher une. Donc, le bonheur, c'est l'état de plénitude, c'est l'excellence de l'être. Ne comprenez pas le bonheur au sens moderne. Là encore, il faut casser des structures mentales. Le bonheur, pour les Grecs, pour les anciens, n'est pas un sentiment de bien-être. N'est pas une jouissance parfaite et durable, sans ombre, que sais-je. Non, le bonheur est un... Je vous le dis, mais vous ne comprendrez pas. Le bonheur est un état. Il y a par exemple une page absolument incroyable que personne ne comprend d'Aristote, dans laquelle il dit « Pour savoir si quelqu'un est heureux, il faut attendre qu'il soit mort. » Évidemment, nous, ça nous paraît un peu bizarre. Et on ne peut le comprendre que si on comprend que pour un Grec, le bonheur, ce n'est pas du tout un sentiment d'épanouissement, de satisfaction, etc. C'est un état. Est heureux celui qui est à sa place et qui a accompli toutes ses potentialités. D'où l'idée de vertu, puisque, je l'ai déjà signalé lors de notre première rencontre, vertu, pour les Grecs, arete, signifie excellence. Vertu ne signifie pas bonne intention, que sais-je, comme pour nous. Vertu signifie excellence. La vertu du manteau est de tenir chaud. Un manteau qui ne tient pas chaud manque de vertu. Donc si je m'interroge sur quel est le bonheur de l'homme, je suis donc conduit à me demander quelle est la vertu de l'homme. Quand est-ce qu'un homme est accompli comme un manteau est accompli quand il tient chaud? Comme un sitariste est accompli quand il joue de la sitar. Il y a des tas de gars qui ont des sitars dans les bras qui ne sont pas des sitaristes. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit? On dit c'est pas un sitariste ça. Pourtant, il joue de la sitar. Alors que ce qu'on trouve de mieux à dire de l'excellent sitariste, c'est ça, c'est un sitariste. C'est la vertu. C'est pas un bon sitariste. C'est pas un excellent sitariste, c'est pas un sitariste talentueux, inventif, imaginatif ou génial. C'est un sitariste. Les autres, on dit, c'est pas un sitariste. C'est un gratouilleur de cordes. Donc, quelle est la fin de l'homme? C'est le bonheur. Ce bonheur, c'est l'accomplissement de son excellence, c'est-à-dire sa vertu. Il y a donc coïncidence de la vertu et du bonheur. C'est ce qu'on appelle les doctrines eudémonistes et les doctrines du bonheur. Si on examine de plus près quelle est la fin de l'homme, on peut l'interroger du point de vue de sa fonction. Quel est son ergone? Là, c'est un point qui me semble vraiment important à éclairer pour rentrer vraiment dans une mentalité antique, c'est-à-dire contemporaine. Quand les Latins parlent par exemple de l'officium, comme les Grecs parlent de l'ergone, c'est au sens de l'office, la tâche. Nous autres modernes, quand nous parlons de devoir, nous entendons un impératif, une règle, que sais-je. Non, ce que nous appelons devoir, pour un ancien, c'est l'officium, c'est l'office. Et celui qui fait son office, fait son devoir. J'en reviens à mon sitariste. Je ne demande pas à un sitariste s'il fait les sourires à son voisin ou s'il donne à la quête. Je demande s'il fait son devoir, c'est-à-dire s'il est un bon sitariste et s'il accomplit la fonction qui est la sienne quand il joue de la sitar. C'est pourquoi j'ai proposé que nous lisions ensemble un passage de l'Éthique à Nicomaque, où Aristote pose justement cette question. Voilà, donc c'est au début de l'Éthique à Nicomaque, Aristote pose la question, quel est l'ergone de l'homme ? Quel est son office ? Ergone, vous le connaissez dans ergothérapie. De même, en effet, qu'un flûtiste, un sculpteur, tout artiste et globalement ceux qui ont un certain office et une certaine action à exécuter semblent trouver dans cet office leur bien et leur excellence, de la même façon, on peut croire que l'homme aussi se trouve dans cette situation, si tant est qu'il ait quelque office. L'homme a-t-il un office ? Et j'insiste sur le fait que cette question est extrêmement contemporaine. Je ne vais pas aborder avec vous les questions sur la sexualité de nos contemporains et leurs difficultés à savoir s'il y a un office. Mais manifestement, pour Aristote, il y a un office. C'est-à-dire que je ne suis pas le devenir de n'importe quoi à n'importe quoi. Ma liberté n'est pas créatrice de ses propres fins. J'insiste aussi au passage sur la portée du mot « bien » en français. Nous entendons le mot « bien » comme un adverbe, quelque chose de bien fait. Pour les anciens, le bien n'est pas un adverbe, c'est un nom, c'est faire le bien. Alors je ne passe pas, mais il faudra qu'on y vienne sur un usage quasiment de bien comme adjectif quand on dit un type bien. Ce qui est aussi une acception antique. Il y a donc trois usages du mot bien. Et quand vous entendez le mot bien, soyez vigilant. Est-ce un adverbe ? Est-ce un nom ? Est-il utilisé de manière adjectivale ? Ici, manifestement, c'est un nom. Serait-ce donc qu'un menuisier et un cordonnier ont des offices et des actions à exécuter ? Un bien, donc. Alors que l'homme n'en aurait aucun et serait naturellement sans fonction ? Vous voyez que la question est contemporaine. Ou bien peut-on poser qu'à l'exemple de l'œil, de la main, du pied, et en somme de chacun de ses membres qui ont visiblement un office, l'homme aussi en a un à côté de tout cela. Alors que peut-il donc bien être ? Vivre. Vivre, en effet, constitue manifestement un office, qu'il a en commun même avec les plantes. Ah oui, mais on cherche ce qui lui est propre. Il faut donc écarter la vie nutritive et de croissance. D'autre part, il y aurait à sa suite une certaine vie sensitive. Mais manifestement, elle aussi est commune au cheval, au bœuf et à tout animal. Bah. Reste donc une certaine vie active. Active, politique. Pour un grec, l'action est politique. Reste donc une certaine vie active à mettre au compte de ce qu'il a de rationnel, c'est-à-dire ce qui d'un côté obéit à la raison et de l'autre la possède et la réfléchit. Mais vu qu'il y a deux façons d'entendre cette vie aussi, il faut poser que c'est la vie en acte, car c'est elle principalement qui semble entendue. La vie active, elle est faite de deux parties. D'une part, la raison, et de l'autre, ce qui obéit à la raison. J'ai donc quatre finalités possibles. La vie, vivre pour vivre. Les plaisirs et les peines, qui sont donc la vie sensitive que nous partageons avec les animaux. La vie active, oui, mais la vie active est faite de deux faces. D'une part, une face par laquelle l'homme obéit à la raison, qui est à proprement parler donc la vie des vertus. Et d'autre part, l'homme en tant qu'il est tourné vers la raison, en tant qu'il possède cette raison, qui est la vie contemplative. Le vital, le sensible, l'actif, le contemplatif. Quatre dimensions possibles. Alors voilà pourquoi l'opinion se partage et dit il y a trois formes de bonheur. La vie de plaisir, qui est de l'ordre de la vie sensible. La vie d'honneur, qui est de l'ordre de l'action, de l'activité, l'homme d'honneur. Le citoyen regardé de tous, admiré de tous. Et troisièmement, la vie contemplative, c'est-à-dire le pur exercice de la connaissance de la vérité, de ce qui est le plus immobile, vous voyez. Contempler, c'est avoir l'objet le plus immobile. Si j'ai l'objet le plus immobile, je suis aussi l'être par là même le plus immobile, en quelque sorte. Car je ne peux pas contempler en me baladant. Je ne peux contempler qu'en me haussant à une immobilité parfaite. C'est ce que font ceux qui font zazen ou tout ce que vous voulez. Et donc, dans la vie contemplative, le sujet est haussé à sa perfection par la perfection même de l'objet qu'il va contempler. Voilà, trois finalités ordinaires entre lesquelles les hommes se partagent, la vie de plaisir, la vie de pouvoir, la vie de contemplation. Vous pouvez reconnaître les trois grands ordres de vie, les commerçants, les politiques, les sages. Vous pouvez, à travers ces trois finalités, vous pouvez distribuer à peu près toutes nos activités. Est-ce que tu agis en vue de ton plaisir? Est-ce que tu agis en vue de l'honneur et de la responsabilité dans la cité? Est-ce que tu agis en vue de la vie contemplative et de la connaissance de la vérité? Comment comprendre cette hésitation, cette pluralité apparente des finalités? Alors là, nous sommes renvoyés, donc j'ai commencé par la cosmologie d'Aristote, nous sommes maintenant renvoyés à l'anthropologie d'Aristote. C'est que l'homme est fait de pièces et de morceaux qui rentrent d'une manière ou d'une autre en conflit. Donc voilà, l'homme aristotélicien, quelle est l'anatomie spirituelle d'Aristote, quelle est la table anatomique d'Aristote? Eh bien, l'homme aristotélicien, il est fait de quatre morceaux, qui ne sont pas voués forcément à s'entendre. Le premier, c'est la vie végétative, celle que nous partageons avec tous les vivants, les plantes, etc. Cette vie végétative, y règne l'ordre de la nécessité. D'une nécessité physique, d'une nécessité de dépendance. Je ne choisis pas de mourir, je ne choisis pas de dormir. D'ailleurs, la vie végétative s'accomplit dans son excellence. Quelle est l'excellence de la vie végétative? Le sommeil. Le sommeil. Nous sommes en Méditerranée, ça va être l'influence de la sieste. Mais en tout cas, donc voilà, l'excellence de la vie végétative, c'est le sommeil. Nos fonctions vitales sont dans leur excellence quand nous dormons. Pourquoi nous agitons-nous? Pourquoi mangeons-nous? Pourquoi? Pour dormir. Deuxième niveau de l'anthropologie aristotélicienne, la vie sensitive, la vie sensible. Cette vie sensitive, elle n'est pas tout à fait dans le règne de la nécessité, car elle connaît une certaine labilité, elle connaît une certaine alternance, elle est soumise à une alternance essentielle, qui est l'alternance du plaisir et des peines. L'oscillation des plaisirs et des peines. Étant enfant avant que d'être homme, nous sommes d'abord mus par le plaisir et la peine. Et cette oscillation du plaisir et de la peine, nous la partageons avec les animaux qui connaissent aussi la fuite et la quête, la peur et le désir. Donc on a quitté d'une certaine manière le monde de la nécessité, vous voyez, pour entrer dans celui du mouvement. Ce plaisir et cette peine, pour nous hommes, sont éclairés par la connaissance que nous pouvons avoir des circonstances, par la connaissance que nous pouvons avoir des situations. Et c'est ce qui concerne donc la partie... Alors les traductions changent, ce soir on va prendre la traduction, la partie calculatrice de l'homme, estimative de l'homme. Ce qui va lui faire dire ce qui vaut mieux, ce qui vaut pas mieux, et c'est ce qui va présider à la délibération. De quoi délibère-t-on ? Eh bien, on délibère de ce qui est contingent, de ce qui peut arriver ou ne pas arriver. On ne délibère pas en mathématiques, on ne délibère pas de ce qui est au-delà de notre pouvoir. L'exemple d'Aristote est délicieux, il vous montrera à quel point vous êtes moderne, car Aristote dit « on ne délibère pas de la meilleure constitution pour les sites ». Pourquoi ? Parce qu'on n'y peut rien. Nous délibérons de la meilleure constitution pour tous les pays du monde. Et c'est-à-dire qu'on délibère de ce qui est à portée de notre action, et de ce qui est dépourvu de nécessité. Donc les mathématiques sont nécessaires. La constitution des sites est au-delà de notre action. On ne va pas délibérer des mathématiques, on ne va pas délibérer de la constitution des sites. On ne va pas délibérer non plus de ce qui arrive par hasard, c'est-à-dire est-ce que c'est le 421 qui va sortir ? Donc on ne délibère ni de ce qui est nécessaire, ni de ce qui est hasardeux, ni de ce qui est hors de notre portée. On délibère donc du possible. Appelons-le ici, pour nous, le contingent. Où va s'exercer une estimation, un calcul? Vaut-il mieux aller faire un voyage à Shanghai ou pas? Cette partie calculatrice, elle s'éclaire de la connaissance des conditions, mais elle s'éclaire aussi de la finalité ultime, de ce qui ne change pas. Et qu'est-ce qui m'éclaire sur ce qui ne change pas? C'est précisément l'exercice de la science, de la Sophia. La science, qu'est-ce qu'elle me dit? Qu'est-ce qu'elle me donne? Elle me donne la connaissance du nécessaire. Je suis donc entre un nécessaire de finitude, dirions-nous moderne, un nécessaire extérieur, un nécessaire des mécanismes des choses, et un nécessaire en soi, que nous donne la contemplation. J'ai donc deux axes en quelque sorte immobiles, et puis deux variables. Je prends une comparaison qui ne vaut que ce qu'elle vaut, vous l'oubliez tout de suite après. J'ai deux moyeux et deux roues. Après, le problème, il est celui de l'engrenage de ces deux roues. Repensez à l'exemple que j'ai pris lors de notre première rencontre. Fumais-tu ? Fumais-tu ?
Oui, mais je suis dans l'oscillation de la plaisir, du plaisir et de la peine.
Oui, mais fumais-tu ? Alors qu'est-ce qui va faire que l'engrenage va pouvoir prendre ? Il vaudrait mieux pour moi ne pas fumer. Mais il n'est pas sûr que l'engrenage prenne. Donc j'ai toute une partie ici. Donc j'ai deux parties. Fumais-tu, ça c'est radical du point de vue de la vie naturelle. Mes poumons s'encrassent et sont régulièrement nourris de ce qui va les faire mourir. C'est impeccable. J'ai une nécessité naturelle, une nécessité scientifique. Entre les deux, j'ai deux variables. Une variable sensible, le plaisir et la peine. Une variable consciente, la décision. Et donc, tout le processus de délibération, c'est le processus qui va permettre d'unifier cette conduite tout entière normalement orientée vers l'excellence, la vertu, hein, excellence, vertu, tout entière orientée vers sa perfection, mais qui suppose évidemment la connaissance du contingent et la connaissance des principes. Par exemple, la cigarette électronique, superbe exemple. La connaissance des principes, fumais-tu ? La connaissance du contingent, ceci est-il une cigarette ? Ah, ça demande examen et je peux toujours barguigner là-dessus. L'exemple d'Aristote, ça n'est pas la cigarette électrique, la cigarette. L'exemple d'Aristote, c'est les aliments secs sont bons pour la santé. Les aliments secs sont bons pour la santé. C'est le principe. S'agit-il d'aliments secs ? Là, je peux me tromper. Et donc, je cours un certain risque dans l'évaluation des circonstances. Et c'est ici, précisément, donc, que va s'exercer l'essentiel des vertus. D'où la distinction nécessaire à faire entre les vertus que l'on peut appeler éthiques, que Aristote appelle, ou que les aristotéliciens appellent éthiques, qui sont les vertus qui règlent le plaisir et la peine. La tempérance, la justice, la prudence, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle les vertus éthiques. Ces vertus éthiques, elles sont susceptibles d'un plus et d'un moins. Comme elles sont dans l'ordre, comme elles agissent dans l'ordre du contingent, elles n'ont jamais une excellence définitive. On est donc dans une oscillation nécessaire, inévitable, dans le domaine de la décision de l'agir pratique qui fera que je mangerai ou ne mangerai pas ces aliments secs. Aristote ou les aristotéliciens appellent vertu dianoétique, c'est-à-dire qui concerne la pensée, noéine c'est la pensée, appellent vertu dianoétique celle qui concerne l'excellence. Vertu, c'est toujours excellence. Hein. L'excellence dans la connaissance des réalités stables et nécessaires. Les vertus éthiques sont susceptibles, donc d'un plus ou d'un moins, vont être entre deux extrêmes. Les vertus dianoétiques, la vertu dianoétique, qui est au fond celle de la sagesse, de la science, la Sophia, va être tout entière, sans degré ni partie, dans la mesure où elle concerne donc la connaissance de la nécessité elle-même, des principes eux-mêmes. On demandait donc quelle est l'excellence de l'homme ? La réponse est claire. Apparemment, l'excellence de l'homme, l'activité la plus haute, c'est la vie contemplative. Parce que c'est dans la vie contemplative qu'il est orienté vers l'objet le plus parfait. Le beau se voit mieux que le laid. Hein ? N'oubliez pas. Donc dans la vie contemplative, il est orienté vers l'objet le plus parfait. Et c'est donc l'excellence qu'il reçoit, non pas de lui-même en quelque sorte, mais de l'objet vers lequel il se tourne. En effet, la contemplation suppose l'objet le plus stable, le plus stable. Cet objet le plus stable, c'est Théos, Dieu, le divin. Contemplation, en grec, se dit théoria. Théoria, c'est théorie. Voyez comment on est devenu moderne. Une théorie, pour nous, c'est un truc qu'on construit. Pas de notre faute si on est moderne. Pour un grec, la théoria, c'est la contemplation de Dieu. Le regard tourné vers Dieu. Ce n'est pas un truc qu'on a imaginé, forgé. Donc cette contemplation, cette théoria, elle a l'objet la plus stable. Elle a donc par là même l'activité la plus constante, la moins susceptible de variations, de différences, et aussi l'activité la plus pure, c'est-à-dire la plus détachée de tout souci. Puisque la contemplation, c'est ce qui est rendu possible dans la scolaire. Il faut toujours se rappeler que école signifie loisir, et que donc le loisir, c'est ce qui permet à quelqu'un de lever son groin du sol pour le tourner vers les réalités sublimes et s'orienter donc vers la réalité suprême qui est la réalité la plus pure, le divin en lui-même. Je parcours rapidement avec vous un passage du livre 10 de l'Éthique à Nicomaque. Si vous ne deviez lire qu'une chose d'Aristote pour connaître la pensée d'Aristote, vous pouvez vous contenter du livre 10 de l'Éthique à Nicomaque. Vous voyez que l'ultime marchandage, c'est ça, dans lequel vous avez à peu près tout. Si le bonheur est une activité traduisant la vertu, il est parfaitement rationnel qu'il traduise la vertu suprême, laquelle doit être vertu de ce qu'il y a de meilleur. Alors, que cela soit l'intelligence, nous, ou autre chose, que cela soit quelque chose de divin en lui-même ou ce qu'il y a de plus divin en nous, c'est son activité, lorsqu'elle exprime la vertu qui lui est propre, qui doit constituer le bonheur achevé. Or, que cette activité soit contemplative, on l'a dit. Il y a accord sur ce point. C'est en effet l'activité la plus haute, puisque l'intelligence est la plus élevée des choses qui sont en nous, et que parmi les objets connaissables, ceux qui sont assignés à l'intelligence sont également les plus élevés. De plus, c'est par ailleurs l'activité la plus continue, puisque nous sommes capables de penser en continu, plus que d'agir continuellement. Nous croyons aussi qu'un plaisir doit être inextricablement mêlé au bonheur. Ça, c'est une thèse fondamentale d'Aristote. La vertu ne peut être exercée que par plaisir. Celui qui serait, Aristote n'ose à peine, ne peut pas imaginer ce que serait quelqu'un qui exercerait la vertu sans plaisir. Puisque quand il exerce la vertu, précisément, il accomplit la perfection de tout ce à quoi il est appelé. Donc l'idée que la vertu soit une activité chagrine qui jugule les plaisirs lui est complètement étrangère. Le plaisir est la facilitation de l'acte. Définition du plaisir par Aristote. Le plaisir est la facilitation de l'acte. Et si l'acte suprême de l'homme est la contemplation, il est naturel que cet acte lui soit facilité, qu'on ait en quelque sorte fait balayette devant lui, qu'on ait fait du curling devant lui, et qu'il puisse accéder à l'objet même auquel il est appelé le plaisir fait du curling. Or, nous croyons aussi qu'un plaisir doit être inextricablement mêlé au bonheur. Or, la plus agréable des activités qui traduisent une vertu est celle qui traduit la sophia, la sagesse. Ici, traduit sagesse. Il semble, en tout cas, que la poursuite de la sophia implique d'étonnants plaisirs par leur pureté et leur stabilité. Or, très logiquement, les savants doivent avoir plus de plaisir dans la vie que ceux qui cherchent à l'être. De plus, ce que l'on appelle l'autosuffisance, marque fondamentale du bonheur pour un grec, l'autosuffisance. Puisque celui qui est accompli, de plus personne n'a besoin. Pour être juste, pour être bienveillant, pour être généreux, j'ai besoin des autres. Aristote dit, mais c'est absurde de penser que les dieux soient justes, ils n'ont pas d'argent. Et ils n'ont personne à qui donner de l'argent. Les dieux n'ont pas de poche. Et donc les vertus médianes, les vertus éthiques, justice, tempérance, etc.,
sont des vertus qui supposent l'échange, qui supposent l'altérité. Celui qui contemple est dans une autosuffisance parfaite. Alors que celui qui veut exercer la justice, ben, faut qu'il ait des compagnons et de l'argent. Car on ne peut pas être juste, dit Aristote, quand on n'a pas d'argent. Les biens nécessaires à la vie constituent en effet un besoin pour le sage, comme pour le juste, il faut bien qu'il mange. Mais une fois suffisamment doté de ce genre de biens, le juste, lui, a besoin d'autres personnes envers qui ou avec lesquelles il puisse exercer la justice. Et c'est pareil ailleurs pour le tempérant, le courageux et des autres. Tandis que le sage, même livré à lui-même, même tout seul, est en mesure de méditer. Et plus il est sage, plus il en est capable. Mieux vaut sans doute exercer cette activité avec des collaborateurs, mais malgré tout, c'est lui qui se suffit le plus à lui-même. Puisque ça implique le loisir, etc. Cependant, voilà. Quelle est l'excellence de l'homme? Quelle est la vertu de l'homme? La vie contemplative orientée vers le plus parfait des objets. Cependant, ce n'est pas la vertu humaine par excellence, au fond. Parce que dans son exercice réel, la vertu humaine siège précisément dans la justice, la tempérance, la prudence, etc., le courage, toute attitude qui exige la discipline des affects et la vie commune. Deux définitions de l'homme chez Aristote. L'homme animal rationnel, l'homme animal politique. Au fond, la définition la plus essentielle, c'est l'homme animal politique. Parce que la contemplation peut être entrevue parfois, on peut s'y efforcer parfois. Mais la vie ordinaire des hommes, la vie normale des hommes, c'est la vie dans la cité. C'est l'échange des biens, c'est le régime de la justice, de la tempérance et du courage. En quelque sorte, les vertus éthiques sont une retombée d'une exigence trop haute de la vertu contemplative. Inaccessible pour nous. Et voilà pourquoi l'éthique à Nicomaque, pour autant que nous le comprenions, en tout cas dans le classement qui a été fait des fascicules qui ont été recueillis, prépare la politique. Car dans le recueil qui a été fait, derrière, c'est la politique qui va suivre. Et qui va nous dire, bon, allez, la vie humaine par excellence, c'est la vie du citoyen. Parce que c'est là qu'il est un homme. C'est un homme, hombre. Et celui dont on dira, c'est un homme, comme on dit d'un autre, c'est un citariste, eh bien, c'est celui qui a les honneurs dans la cité. Du coup, parmi les trois solutions, une vie de plaisir, une vie d'honneur, une vie de contemplation, Aristote donne raison aux trois. Parce qu'il n'y a pas de vertu sans plaisir, et toute la vertu est orientation, exaucement vers l'être parfait. Mais dans la pratique, la retombée en quelque sorte de cette exigence fait que la vraie vie d'homme, ça c'est un homme, c'est la vie d'honneur. C'est celle que n'ont pas les femmes, c'est celle que n'ont pas les esclaves, c'est celle que n'ont pas les bœufs. Que seul peut avoir le citoyen qui agit justement. Car qu'est-ce que c'est que l'activité propre au citoyen? Eh bien c'est l'activité des hommes libres qui se considèrent entre égaux. Qu'est-ce que c'est que la politique? C'est ce qui s'accomplit entre égaux, égaux à UX. Parce qu'une réalité est politique, dit Aristote, quand on peut tour à tour être celui qui commande et celui qui est commandé. C'est une définition parfaite. Et donc l'activité politique est celle qui s'exerce entre égaux, donc elle ne s'exerce pas avec les femmes, elle ne s'exerce pas avec les esclaves, elle ne s'exerce pas avec les étrangers, elle s'exerce entre citoyens qui peuvent donc faire régner en eux les vertus éthiques susceptibles de plus ou de moins que sont la tempérance, le courage, la justice, etc. Alors maintenant, je reviens à ma question très rapidement. Comment décide-t-on? Comment tout ceci embraye-t-il? La réponse est de bon sens. Il faut qu'un habitus règle la vie sensible. Il n'y aura pas de vie éthique pour celui dont la vie sensible n'est pas réglée par des habitudes. Et le rôle de ces habitudes, c'est précisément d'apporter au fond une forme de régularité quasi naturelle. Vous voyez, on a la nécessité naturelle, elle est absolument régulière, on dort à heure régulière. L'habitude, elle apporte une régularité quasi naturelle à la vie sensible, pourtant faite d'oscillations, de plaisir et de peine. Et celui qui
vit des habitudes modérées dans le monde sensible, peut effectivement exercer sa prudence, exercer ses capacités délibératives, ses capacités de jugement. Et c'est pourquoi l'éducation commencera par l'éducation de la vie sensible. Nous avons été enfants avant que d'être hommes. Il faut donc d'abord éduquer la vie sensible. Nous sommes des êtres de plaisir. Nous sommes d'abord des êtres de plaisir. C'est pourquoi Aristote dit que le politique doit être un spécialiste en plaisir. Et nous sommes des hommes de plaisir. Il faut donc régler d'abord la vie de plaisir. Ce n'est pas la peine de faire un discours de morale à quelqu'un qui n'a pas de bonnes habitudes. Vous perdez votre... Il ne deviendra pas moral parce que vous lui aurez donné de bonnes idées. C'est simple. Et donc, il faut d'abord façonner ses habitudes. C'est le travail d'éducation. Taloche, brioche, font les bons mioches, dit Aristote. En grec. La faculté calculatrice, comme je le disais tout à l'heure, elle évalue les circonstances contingentes. Est-ce un fruit sec? Est-ce une cigarette? Est-ce un bon voisin? Est-ce la somme d'argent suffisante? Est-ce le juste salaire? Mais si vous faites un raisonnement sur est-ce un juste salaire à quelqu'un dont les mœurs sont dépravées, vous perdez votre temps. Donc ce n'est pas le raisonnement qui nous rend moral. Ce n'est pas les bonnes habitudes qui nous rendent moral. C'est l'embrayage. C'est pour ça que ma métaphore de l'embrayage, elle vaut ce qu'elle vaut, mais je ne la trouve pas si mal. C'est l'embrayage des bonnes habitudes et d'une capacité de jugement. Alors, c'est pourquoi je terminerai cette présentation qui me laisse sur ma faim encore plus que vous, parce que je mesure tout ce que j'aurais dû dire, par la lecture avec vous du très beau portrait du magnanime. Magnanime, celui qui a une grande âme. Alors, j'insiste sur le fait que la morale aristotélicienne, à la différence de d'autres morales que nous parcourrons, est une morale qui procède par portrait. Aristote, assez curieusement, quand il parle de morale, fait des portraits. Nous nous sommes habitués, et puis alors nous rencontrerons, par exemple avec Kant, une morale qui dégage les principes les plus purs, les plus abstraits possibles, les plus cristallins possibles, des principes tellement universels qu'ils soient décolorés de toutes circonstances. Au contraire, la morale aristotélicienne est une morale qui procède par portrait. Quand il dit « Qu'est-ce que la prudence ?», il répond « Eh bien, commençons par décrire ce que nous appelons un homme prudent. » Et pourquoi procède-t-il par portrait ? Ben parce que précisément, cette morale est une morale tout entière incarnée. Aristote nous dit en matière de morale, c'est comme en matière de maçonnerie, il y a l'équerre des géomètres et l'équerre des maçons. On ne fait pas de la morale avec l'équerre des géomètres. On fait de la morale avec l'équerre des maçons. Or, l'équerre des maçons, surtout dans la Drôme, elle s'adapte à la nature de la pierre, au taux d'alcoolémie du maçon, à la verticalité du mur, etc. Et au fond, l'équerre du maçon, elle est tout entière dépendante du contingent. Et c'est pourquoi la morale aristotélicienne est une morale qui procède par portrait. Il ne dit pas « qu'est-ce que la magnanimité ?» Il dit « qu'est-ce que le magnanime ?» C'est un enseignement de la morale que rejettera complètement la modernité, qui refusera d'enseigner la morale par les exemples, mais qui voudra l'enseigner par les principes. Alors voyons ce très beau portrait du magnanime, dont j'ai sélectionné quelques pages pour notre plaisir. Le magnanime est porté à la bienfaisance. Et recevoir un bienfait lui inspire de la honte. Oui, on est dans l'honneur, donc dans le régime de la honte, pas du bien et du mal, de la honte et de l'honorable. Car donner est la marque du supérieur, tandis que recevoir est celle de l'inférieur. Superbe portrait du noble, de l'aristocrate. Il incline à rendre beaucoup plus qu'il n'a reçu. Car ainsi, s'il se trouve quelqu'un à l'avoir aidé, par malheur, celui-ci lui devra encore quelque chose et deviendra son obligé. D'ailleurs, les magnanimes passent pour faire mémoire des bienfaits dont ils sont l'auteur et taire ceux qu'ils ont reçus. Car l'obligé est inférieur au bienfaiteur. Or, le magnanime souhaite avoir la priorité. Il prend plaisir. Vous voyez ? Il prend plaisir à quoi ? Il prend plaisir aussi à entendre parler des premiers, mais pas des seconds. C'est précisément pourquoi la déesse Thétis n'évoque pas devant lui les bienfaits qu'elle a rendus à Zeus, ni les Lacédémoniens, les faveurs dont ils ont gratifié les Athéniens, mais les faveurs dont ils ont bénéficié de la part de ceux-ci. Mais un magnanime a aussi pour trait de ne solliciter personne. En revanche, il offre ses services avec empressement. Mais comme marque, vous voyez, rendre service, c'est la marque de la supériorité. Pourquoi ? Parce que c'est la marque de la non-dépendance, de l'autosuffisance. La générosité du magnanime est la marque de son autosuffisance. Pas de sa bonté ! Arrêtez les contresens ! C'est pas de sa bonté, c'est pas un mec sympa. Il manifeste qu'il n'a besoin de personne à Harley Davidson. Et je manifeste que j'ai besoin de personne en laissant tomber de moi quelques piécettes. Ce qui est la marque du noble. Devant ceux qui occupent une dignité et que favorisent la fortune, il garde le front haut. Mais devant les personnes de condition moyenne, il adopte une attitude mesurée. En effet, montrer sa supériorité est difficile dans le premier cas, et cela impose le respect, mais facile dans le second. Et imposer le respect aux grands n'est pas ignoble, mais auprès des gens humbles, c'est un trait de vulgarité, comme de montrer sa force aux dépens des faibles. De plus, son tempérament. On est donc bien dans l'union de la vie sensible et de la délibération. Et il a un tempérament, il n'est pas magnanime comme ça par éducation, il y a aussi un tempérament magnanime. On est bien dans l'embrayage du sensible et du délibératif. Son tempérament le porte à ne pas chercher les places d'honneur ou le rang que valent à d'autres leurs privilèges. C'est aussi quelqu'un qui n'est pas affairé et sait attendre, sauf dans les situations où il y va d'un grand honneur ou d'une entreprise importante. Et si rares sont celles qu'il exécute lui-même, ce sont en revanche des actions de grande importance et susceptibles de renommée. Il trouve par ailleurs d'afficher ce qu'il déteste et ce qu'il aime, car le secret trahi un timoré de cultiver la vérité plutôt que l'opinion et de parler et d'agir au grand jour. Il possède en effet la liberté de langage que lui donne son mépris des conséquences. Toujours l'autosuffisance. C'est précisément pourquoi il est porté à la franchise, non pas parce qu'il aime la vérité, mais pour montrer qu'il est autosuffisant. Si l'on accepte ce qu'il dit par ironie, mais alors devant la masse, qui ne le comprend pas. Il est d'ailleurs incapable de vivre en fonction d'un autre, sauf si c'est un ami, et encore. Une telle attitude serait en effet servile. C'est précisément pourquoi tous les flatteurs sont de la catégorie des personnes à gage et les humbles des flatteurs. Il ne sera pas porté à l'admiration, il n'admirera personne, ni le mirari. Il n'admirera personne puisque rien n'a de grande importance à ses yeux. Ni non plus à la rancune, puisque avoir de la rancune, ça supposerait qu'on puisse l'atteindre. Un magnanime a pour caractéristique de ne pas se rappeler ce qu'on lui a fait. Là, au moins, il est autosuffisant. Tout spécialement ce qu'on lui a fait de mal. Mais plutôt de détourner les yeux. On saute un passage, touchant encore le nécessaire et les biens sans importance, il sera le dernier à se lamenter et à quémander, car cela voudrait dire qu'il s'en préoccupe. Et il est homme à préférer posséder ce qui est beau, le beau se voit mieux que le laid, et ne rapporte pas de fruits, plutôt que ce qui est fructueux et utile. Par ailleurs, c'est une démarche lente qui semble convenir au magnanime. Et il a trouvé sa place. Voulez-vous marquer votre autorité ? Marchez lentement. Plus quelqu'un est près du pouvoir, plus il s'immobilise. Celui qui bouge, pour nous autres, modernes, celui qui est libre, c'est celui qui bouge. Aristote nous dit, le général qui ne bouge pas est plus libre que le petit esclave qui court de tous les côtés. Le général n'a pas le droit de bouger. Si le général bouge, il a perdu sa place, parce que le général est à sa place. Il ne bouge pas. Le général est caractérisé par son immobilité, comme au jeu d'échecs. Mais en revanche, les petits esclaves, eux, ils vont d'une cour à l'autre, ils mangent dans la soupe, ils vont jouer aux osselets. Et voilà pourquoi le magnanime marche d'un pas lent. Une voix grave et une diction posée. On ne doit pas en effet avoir l'air pressé quand on prend peu de choses au sérieux, ni l'air tendu quand on croit que rien n'a d'une grande importance. Or, la voix aiguë et la précipitation résultent de ces soucis. Ainsi donc, voici les traits du magnanime. Or, le magnanime est peut-être pris entre deux excès. Celui, en revanche, chez qui ces traits sont trop peu accusés, est un pusillanime, et non pas un magnanime. Et celui qui les accuse à l'excès est un vaniteux. Donc, le magnanime est à mi-chemin entre le vaniteux et le pusillanime. Les vertus éthiques sont susceptibles d'extrême, et elles s'exercent dans la détermination du juste milieu. Ainsi donc, ce ne sont pas, semble-t-il, des vicieux eux non plus, car ils ne font pas le mal, mais ce sont des ratés, ce qui est bien pire que vicieux. Remarquable cette conclusion. Et parce que raté, ça veut dire qu'il n'a pas atteint son but. Un sitariste raté
C'est pas un sitariste vicieux, c'est un sitariste raté. C'est pire qu'un sitariste vicieux. Le sitariste vicieux, il y en a plein. Mais le sitariste raté, c'est celui qui n'est pas parvenu à la plénitude de l'ergone du sitariste.
Voilà, c'était quelques mots nécessairement rapides concernant la morale chez Aristote et les rapports entre vertu et bonheur. Comme j'ai été rapide, j'ai certainement manqué de clarté. Vous allez m'aider à corriger les obscurités éventuelles que j'ai laissées.